À bord du manège des Papous, Françoise Trossard et la belle équipe, jusqu'à 13h59, à l'affiche, une page de pub par Jeanne Carillon, une vie de miroir, et le discours revendicatif des légumes du potager par Patrice Caumont et Odile Conseil.
Assez de ces humains qui nous citent sans autorisation, assez de René Fallet et de sa soupe aux choux, assez de John Avenette et de ses beignets de tomates vertes, assez de Bergman et de ses fraises sauvages, assez du Pays de Galles qui s'est approprié le poireau sans lui demander son avis.
Ouh. Et puis la bio non autorisée de la première épouse par Jacques Abertrand. Correspondance chez les Maulnes avec Dominique Muller, Patrice Minerve et Le Tellier. Et parlons-nous de la même œuvre par Gérard Mordillat dans Le Monde du Travail, son sujet préféré.
Comme venu des profondeurs, surgit brutalement la grande question. Le progrès détruit-il les emplois en privant les travailleurs de ressources ou au contraire permet-il d'en créer de nouveaux ?
Au passage.
Une émission à télécharger sur franceculture.fr pendant un an. À réécouter 1000 jours sur la page des Papous, vous pouvez poster vos remarques, questions et essais sur nos jeux, rubrique commentaires. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Et on se lance avec une pub, mais publie Papoucité, imaginée par Jeanne Carillon. Et qui dit Carillon dit chanson. C'est son moyen d'expression préféré à Jeanne. À vous de jouer.
J'aime quand je déraisonne. Eh ben oui, je me passionne. Crac-boum, c'est ma condition. Je suis l'interjection. Ma sonorité enchante. Patatras mince, je déchante. Tiens-toi zou, je passe à l'action. Je suis l'interjection. Injectez, injectez, injectez donc dans votre syntaxe un tas d'interjections. Oui, exclamez, exclamez, exclamez donc vos points à la fin des interjections. Je suis constante, invariable. Zut, sa perlotte, va au diable. J'ai un goût pour les jurons. Je suis l'interjection. Hop, je ne me prends pas la tête. Ça sort tout seul par la luette. Faut une bonne prononciation pour l'interjection. Exercez, exercez, exercez donc votre langue à lancer des interjections. Stimulez, stimulez, stimulez donc vos sens à lâcher des interjections. J'ai un faible pour les bêtes, cocorico que c'est chouette, je me lance dans l'imitation, je suis l'interjection. Me cuicui i en miaou, pimpompin vroum vroum tchouchou, tout ça sur l'air des flonflons, je suis l'interjection. Sonnez les dons, laissez sonner les sons de l'interjection. Enchantez, enchantez, enchantez donc vos chansons à grands coups d'interjection.
Merci Jeanne. Nouvelle série de vie d'objets, commencée dimanche dernier. Après le Savon de Marseille de Violaine Schwartz, si vous l'avez raté, faites un retour sur podcast. Une autre figure emblématique de notre quotidien livre son état de choses. Ses relations ambiguës avec ceux qui l'utilisent, ses coups de mou, ses moments de triomphe. Comment vivre sans lui d'ailleurs? Livrez-vous Hervé Le Tellier, vous êtes quoi?
Je suis le miroir de salle de bain. Oui. Ouais. Qui suis-je? Qui suis-je? Je sens bien que je n'aurai pas de vraie réponse à cette question. Mais j'en pose une autre. Qui aurait une vraie réponse? Bon, déjà, je sais où je suis. Je suis accroché au mur d'une salle de bain, au-dessus d'un lavabo plutôt mutique et d'une tablette sans vraie conversation. Je ne suis pas médecin, mais je crois être atteint de troubles associatifs de l'identité. Ça s'appelle aussi trouble de la personnalité multiple. Tenez, le matin, quand je me réveille, eh ben, je suis un homme d'une quarantaine d'années barbu. Je me rase avec précision, je m'approche de moi et je me presse un point noir. Quelques minutes à peine passent et je suis une jeune femme, rousse avec des mèches. Je m'épile les sourcils. C'est terrifiant. Je vis avec ce drame intime. Le soir, ça recommence. Lui, elle, moi, elle, lui, moi. Parfois même, et ce cas est exceptionnel dans les archives de la psychiatrie, je peux être les deux à la fois. Mon moi masculin embrasse le cou de mon moi féminin. Il se caresse ma nuque. Ou il me caresse sa nuque. Enfin, ou alors il me regarde, moi, nous, fixement, en se lavant les dents. Nous nous regardons. C'est fou. C'est un cas unique dans les annales. Bon, alors pendant la journée, moi j'ai des grands, grands moments de vide. Je regarde la salle de bain.
Oui,
je me sens comme absent de moi-même.
Pas exaltant, oui.
Je ne sais pas où sont les esprits qui me possèdent. Alors j'ai du temps pour réfléchir. Est-ce que j'existe sans le regard de l'autre? Est-ce que le monde existe en dehors de mon reflet? Qu'est-ce que le reflet de mon reflet? Bon, ce qui est certain, c'est que quand on réfléchit trop, eh ben, c'est difficile de développer une personnalité. Parfois, je ne sais même plus quel est mon bon côté, ou même si j'en ai un. Est-ce que le réel se trouve face à moi ou derrière moi? Qu'est-ce qui est face? Qu'est-ce qui est derrière? Oh là là. Bon, alors j'essaye de parler au lavabo, d'échanger, comme on dit. Un type carré, sans imagination, totalement névrosé. Lui, c'est pire que moi, il croit qu'il est un objet. Le pauvre, il est plutôt vulgaire et je ne m'y fais pas, moi qui suis tellement poli. Parfois, je me sens complètement embué. Moi, le matin surtout, le monde est flou. Et je me demande s'il est naturellement flou ou si, en fait, la netteté n'est pas une illusion créée par la disparition de la buée. Bon, je dis ça, mais ça ne reflète pas tout à fait ma pensée. Voilà ce qui arrive quand on parle sans réfléchir. Et puis hier, j'ai fait un drôle de rêve. Une petite fille me traversait. Bon, en traversant, le reflet ressortait de l'autre côté et tout était à refaire. Alors elle retraversait, c'était sans fin, un cauchemar. Et puis juste après, un type me regardait. Il répétait « Fabienne Tabar, Christine Darbon, Darbon, Christine Darbon, Antoine Doinel, Antoine Doinel. » Bon, j'ai fini par me réveiller dans le noir. Dans le noir, affreux, Antoine Doinel.
Ah non, mais il a une vie culturelle quand même, ce
ouais.
Miroir.
Il y avait ça, il y avait « Are you talking to me ?» aussi, qui est un grand moment de miroir au cinéma.
Oui. Vous avez vu le film, non, Ricardo Mosca?
Oui.
Vous êtes le monsieur du miroir?
Mais non, je suis la serviette éponge.
Ah, un peu molle, quoi, oui.
Non, pourquoi? Molle, si c'est amidonné, c'est pas molle.
C'est plus agréable de s'essuyer avec une serviette molle qu'avec une serviette dure.
Bon, alors, je suis la serviette éponge molle.
Ouais. Comme les montres de Dali.
Exact.
Oui.
La blanche, à rayures mauves, celle de madame. Je suis juste face à lui, la surface glacée et brillante. Souvent, je suis là jeudi et vendredi. Ils sont méthodiques, nos maîtres. On me lave le mercredi et chez lui, je suis accroché. Je me regarde en lui. Je ne sais pas s'il se voit en moi, je ne crois pas. Un jour, qu'il était dans les vapes, ma maîtresse m'a frotté à lui pour pouvoir se regarder. Parfois, je me regarde...
C'est pas un bon souvenir.
Non.
Je m'en souviens très bien, ben, c'est pas un bon souvenir.
C'est agréable.
Ben, non.
Moi, j'aime bien quand c'est frotte. Bon, parfois, je me regarde entourant la ceinture de madame. Monsieur, parfois, me porte comme turban. Grâce à lui, les miroirs, je peux me regarder dans moult situations. Quand il fait sombre dans la salle de bain, je me vois en noir et blanc. Je ne sais pas s'il se voit en noir et blanc aussi. Je trouve qu'il est noir et blanc. Parfois, la nuit, cette Alice va et vient. Elle joue avec lui. Mais à moi, elle ne m'adresse pas la parole. Et peut-être qu'il n'y a personne, que c'est mon imagination. À force d'avoir ma personne en face tout le temps, maybe que je mets des doubles. Les vendredis passés, la salle des bains est ouverte et j'ai entendu la télé dire « Miroir, miroir !» Une sorcière l'appelait. Il sait se faire des copains. Il a toujours quelqu'un devant lui à lui faire des grimaces. Madame, l'autre jour, lui chantait, puis l'embrassait et elle répétait des postures haussées. Messier, souvent, lui montre ses muscles. Bon, je ne peux pas me plaindre, je suis souvent collé à madame et parfois à lui, moins lui. Il y a ses serviettes bleues à rayures grises. Toujours, quand la porte est ouverte, grâce à mon miroir, je mate ce qui se passe dans les livings. Il n'est pas très rigolo, mon copain d'en face, et parfois j'ai mal aux yeux quand le monsieur se rase et allume les néons. Il duplique tous ses miroirs, même les néons. Oui, j'ai des yeux comme tout le monde. Lui n'a pas de yeux. Il vit grâce aux yeux des autres. Je crois qu'il est aveugle, comme Borges. Si un jour il tombe, paraît que la maison brûlera, et nous avec, torchons et serviettes. Alors, je lui souhaite longue vie. Mais je ne changerai jamais ma condition de serviette par celle du miroir. Parce que souvent, il y a des invités ici, et tous passent devant lui, et rentrent en lui. À l'extérieur, il est vide, mais dans son intérieur, il doit y avoir des milliers de tronches et corps entassés, quel cauchemar. Bon, je pars dans les langes sales. Salut miroir, à jeudi, je te laisse avec ma pater.
Ça c'est une chose que le miroir ne connaîtra jamais, c'est la volupté du plongeon dans la machine à laver.
Ouais, ça n'a pas l'air coton quand même. Hein.
Elle parle très bien la serviette, c'est la première fois que j'entends une serviette dire moult situation.
Ah oui.
C'est vrai, c'est vrai, c'est une CSP+. Plus. Depuis 2003, Brest fête la radio le temps d'un week-end à travers le festival Longueur d'onde qui réunit les amateurs de radio et les professionnels. France Culture est partenaire de cette manifestation et nous, papou dans la tête, sommes invités à y participer pour la deuxième fois. On n'est pas peu fiers. Vous avez donc rendez-vous avec nous samedi 6 février à 20h dans la grande salle du Quartz pour une soirée enregistrée de notre récréation littéraire de 20h à 22h. Nous ferons tout pour vous séduire et vous faire sourire avec les jeux papou et Jean-Bernard Puy, Dominique Muller, Hervé Le Tellier, Violaine Schwartz, Lucas Fournier et Serge Joncourt. Venez nombreux, l'entrée est libre et gratuite, la salle immense. Et plus on est nombreux, plus c'est joyeux. Samedi 6 février au Quartz de Brest à 20h pour une soirée des papous dans la tête. Tous les renseignements sur Facebook et sur franceculture.fr à la page des papous. On en reparlera.
Les papous, c'est dans toutes les têtes et sur France Culture.
Et oui, Jacques, et aux papous, on propose des classes de rhétorique pour tous ceux qui aimeraient tant s'exprimer brillamment en public. Parce que tout le monde est appelé à le faire un jour, ne serait-ce que pour féliciter un collègue, par exemple, pour sa rupture conventionnelle bien négociée. Avec les papous, tous les sujets de discours sont abordés, de l'adieu de Patrice Minet à ses peluches, injustement méprisées par sa nouvelle épouse, à celui de Patrice Comon, à ses chirurgiens qui avaient, les étourdis, oublié une compresse sous la cicatrice. Ils ont de l'imagination, les écrivains papous. C'est le cas d'Odile Conseil aussi. Présentez-vous, Odile.
Je suis une carotte.
Bien fraîche.
Une carotte du potager. Et je m'adresse à vous tous, mes frères et sœurs, des potagers.
On n'est pas forcément carotte.
Camarades, c'en est assez. Assez de ces humains qui nous exploitent honteusement depuis trop longtemps. Ces humains qui nous arrachent à notre mère patrie, à notre terre nourricière, qui nous entassent dans des cageots comme du bétail, qui nous exilent dans les contrées glacées des chambres froides, qui nous vendent, s'enrichissant grâce à nous. Ces humains qui viennent nous tâter, nous palper, nous soupeser, soulever nos feuilles, nous sentir le pédoncule, nous examiner sous toutes les coutures avant de nous acheter. Assez d'être traités comme des esclaves, assez d'être anéantis pour satisfaire aux exigences de l'homme à qui nous sommes offerts en sacrifice comme Iphigénie le fut à Artémis pour du vent. Assez de ces gouvernements qui exigent que 10 d'entre nous soient chaque jour sacrifiés dans les estomacs des humains et pour leur donner quoi ? Une bonne santé.
Ah, hein ?
Eh bien, ça suffit. Aujourd'hui, levons-nous et battons-nous pour la bonne santé du légume, dont l'espérance de vie est considérablement réduite pour satisfaire aux appétits des humains. Assez de ces humains qui nous citent sans autorisation, assez de René Fallet et de sa soupe aux choux, assez de John Avenet et de ses beignets de tomates vertes, assez de Bergman et de ses fraises sauvages, assez du Pays de Galles qui s'est approprié le poireau sans lui demander son avis, assez de Paris qui a fait main basse sur le champignon. Vous, les pommes de terre qu'on écrase, vous, les poivrons qu'on passe au grill, vous, les tomates à qui on arrache la peau après vous avoir ébouillanté, nous, les carottes qu'on râpe, nous, foule esclave, debout, debout.
Je suis fan.
Les humains sont fourbes, ils nous promettent des bains de vapeur, des couvertures crémeuses. Ils cherchent, disent-ils, à nous accommoder au mieux. Ils affirment que nous sommes à croquer. Ils tentent de nous amadouer, ils nous parlent de mandoline. Mais elle nous joue un air tranchant. Les humains font de nous leur jouet. Ils nous instrumentalisent. Rappelez-vous, notre amie la citrouille, transformée en carrosse dorée pour les beaux yeux d'une souillon, puis abandonnée lâchement à son triste sort au bord d'un fossé, comme minuit sonnait.
J'ai une honte.
Que croyez-vous qu'il lui arriva ? Une dépression sévère dont elle n'est aujourd'hui toujours pas guérie. Et ma propre grand-mère, qui servit de nez à un bonhomme de neige. Ce jour-là, les carottes n'étaient pas cuites, elles étaient glacées. Les humains nous trompent. Rappelle-toi, pomme de terre, comme tu t'es fait avoir quand on t'avait promis que tu ferais partie du gratin, que tu aurais le titre de duchesse, puis quand on t'a offert une robe des champs. Et toi, chou-fleur, qui as cru ton heure de gloire venue lorsqu'ils t'ont appelé du Barry. Mais du Barry, c'était pour mieux te faire déguster. Et toi, chère betterave, toi qui t'es imaginé au musée, caressé des yeux par des foules émerveillées quand on t'a parlé de Carpaccio, tout ça pour finir coupé en tranches. Ah, tu as eu l'air fin ce jour-là.
Oui, c'est vrai, oui.
Notre vie est terrible, il est temps d'en changer. Assez des poireaux, des oignons qui finissent leur existence dans le potage. Assez des salades dont on arrache les feuilles une à une, comme on ne fait jamais aux pages d'un livre. En parlant de livres, moi-même je me retrouve dans un dictionnaire d'argot. Oui, un dictionnaire d'argot. Pour une grande fille de la campagne, toute simple comme moi, vous n'imaginez pas la honte que ça représente. Allons leur carotter leurs couteaux. Leurs économes, leurs tranchoirs, leurs robots. Allons, mes amis, que le torrent de la révolution abreuve nos sillons. Arrachons-nous à notre condition d'exploiter. Allons, enfants du potager, car le grand soir est arrivé. Allons apprendre aux humains à vivre d'amour et d'eau fraîche. En fait, ils en rêvent tous.
Oui.
À la soupe, à la soupe, à la soupe, à la soupe.
Bravo. Bon. Il y a quelqu'un au fond de la salle qui veut prendre la parole.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Patrice Comeau.
Bah écoutez, c'est toujours les mêmes qui parlent. Il y a de la voix que pour l'opposition. Et en plus, moi qui représente effectivement, je ne suis que délégué du personnel. Je suis un peu le patron. Ah oui. Finalement, je suis peut-être un petit peu le capital.
Oui.
Mais gentiment. Et jusqu'ici, de toute façon, avec un paternalisme certain. Et on ne va pas se laisser marcher sur les plates-bandes par des carottes rouges. Camarades légumes, camarades légumineuses, travailleurs de la terre, enfants du limon, méfiez-vous du chant des sirènes. La carotte lumineuse, leader du syndicat des légumineuses, vous aveugle et vous promet des lendemains qui chantent au chant, mais le grand soir, c'est de la soupe. Méfiez-vous, le potager qu'il vous propose, c'est pas le jardin d'Éden, c'est le kolkhoz. L'engrais ne fait pas le progrès, et la carotte n'est jamais loin du bâton, que dis-je, de la matraque de la répression néo-stalinienne. Aujourd'hui, vous avez le goulag, si vous les suivez, vous aurez le goulag. La carotte et les rouges du même acabit, tomates excitées, poivrons poivreaux, sont des extrémistes dangereux qui lèvent le poing bien haut pour mieux l'abattre et écraser les féculents et vous réduire en purée. La moulinette rouge est en marche. Tous les cocos de Paimpol ou de Chambord, tous ces dangereux meneurs du syndicat le plus dur à digérer, Sud, Aïe, veulent transformer les flageolets en lentilles et les mojettes en moujiques. La coalition qu'ils forment avec les Verts, surtout les haricots, forme une fricassée dangereuse. Ils veulent laisser nos enfants mourir de faim en se dressant contre notre volonté humanitaire, notre ONG de potager qui est de nourrir ceux qui ont faim. Pendant que les haricots s'enfilent comme des topinambours, pendant que les endives s'aspergent de panais, les rouges veulent nous laisser sans un radis. Mais ils ne font pas le poids, les petits. Et s'ils le faisaient, nous en ferions des pois cassés. Oui, avec l'appui de ce qu'ils appellent les jaunes, les poivrons favorables au patronat, nous allons chasser les voyous qui occupent les usines, sabotent les herses, les binettes et même les arrosoirs, sans compter les paniers dont ils dressent des barricades. L'ogre rouge, la carotte, qui, ceci dit en passant, était déjà très à l'aise à la vichyssoise, veut nous dresser contre nos alliés, les végétariens, et contre nos plus fidèles amis, les végétalistes. Qu'est-ce qui fournit du travail et crée de la richesse aux potagers? Traiter le jardinier d'exploiteur du MEDEF à la solde du capital international, c'est laisser la porte ouverte à des importations de légumes étrangers qui prendront votre place autour des côtes de veau, poissons vapeur et autres situations bien stables. Le soja, voilà où va vous mener une grève trop longue, un combat trop politicien et d'un autre âge. Du soja partout. Plus de viande, plus de vrais légumes. Le soja, c'est le triomphe de la Chine. Le légume protéine, la fin des haricots pour vos emplois en principal, en entrée, en salade et en garniture. S'il vous plaît, ne suivez pas les carottes extrémistes. N'oubliez pas que vous êtes des denrées périssables, que votre fraîcheur est un bien fugace. Chaque heure qui passe, hors du panier de la ménagère, hors du frigo, vous fait perdre du poids, de la valeur et du pouvoir d'achat. Rentrez dans le rang d'oignons. Rejoignez vite votre véritable place. Ne crachez plus sur les grosses légumes. On vous réserve un avenir glorieux et doré au beurre. Si vous voulez rester à la carte des grands chefs comme Passard, jetez votre carte du parti.
C'est la première fois, Patrice Comon, que je vous entends être aussi politique. Vous faites ça bien, le patronat.
Surtout le réactionnaire, oui.
Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense, la carotte, Odile ?
Ah ben, je pense que cette façon de semer, et je pèse mes mots, de semer la discorde au sein du potager, c'est très très classique, quoi, comme façon de faire, hélas.
Dans les banques, il n'y a pas que de l'oseille. Il y a des employés qui font leur métier. Et puis c'est bien comme ça. T'en as ? Moi pas. Quand j'en aurai ? Quand j'en aurai, ça va changer. Je me payerai des habits prince de Galles. Et j'aurai des amis dans la salle. T'en as ? Moi pas. Quand j'en aurai ? Quand j'en aurai, ça va changer. Et quant au pépé, j'aurai plus qu'à me baisser. Puis qu'à les ramasser. À moins qu'elle puisse grimper. Dans les gares, il n'y a pas que des voyages. Il y a des trains complets qui font leur métier, puis c'est bien comme ça. Tu te tailles, moi pas, quand je me taillerai. Quand je me taillerai, ça va changer. Je remonterai les duchesses à la source, en sleeping, en express, en pousse-pousse. Tu te tailles, moi pas, quand je me taillerai. Quand je me taillerai, ça va changer. Et quant aux pépés qui viendront me voir passer avec leurs chasses croisées, faudra qu'elles puissent grimper. Dans les cimetières, y a pas que des veuves. Y a des allongés qui n'ont plus de métier. Et c'est bien comme c'est. Tu meurs ? Moi pas. Quand je mourirai. Quand je mourirai, ça va changer. J'aurai plus aucun frais de blanchisseuse. Et j'aurai pour jeûner la dent creuse. Tu meurs, moi pas, quand je mourirai. Quand je mourirai, ça va changer. Et quant au pépé, en roncasse baissée, pis qu'à me ramasser, à moins que je puisse grimper.
Philippe Léotard, dans les banques, Ferret. C'est le moment chronique avec Jacques Bertrand. Après « Les gens, c'est rien que des sales types », après la brève histoire des choses, il s'est plongé dans une nouvelle série, Jacka, qui verra le jour très bientôt. Son titre, « Les biographies non autorisées ». Et pour vous mettre l'eau à la bouche, la première de ces bios, Jacka Bertrand, on découvre.
Alors c'est la biographie non autorisée de la première femme.
Ève ?
C'est pas Ève, non.
Ah bon ?
C'est pas non, mais c'est un prototype. Ah oui. Un prototype de première femme.
Bon.
Notre première épouse était venue au monde sans incident majeur, ni sans explosion de joie particulière. Sa mère, dont elle était le dixième rejeton, ne s'émut pas spécialement de sa naissance. Son père était absent, comme sont beaucoup de maris, paraît-il. Eût-il été là qu'il n'aurait pas apparu davantage présent, car ce passionné de grand air supportait mal les atmosphères confinées. À la mailloticienne qui l'interrogeait, la mère de la nouvelle-née répondit avec une moue désabusée « Il est en mission depuis 6 mois dans l'Antarctique, à mesurer la température de la glace ou quelque chose comme ça, enduit de crasse de phoque. Vous imaginez l'odeur quand il va rentrer ?» La sage-femme, qui était aussi une femme sage, jugea bon de ne pas insister. En dépit de la bonne tenue des registres d'état civil et des sciences qui en décrivent scrupuleusement le processus, la naissance demeure un mystère. Que notre épouse soit née est un fait indubitable. Cependant, nous ignorons tout de ses possibles pérégrinations prénatales, sous l'espèce d'atome ou sous une autre. Il n'est pas prouvé qu'elle ne se soit pas antérieurement baladée dans le cosmos ou qu'elle ait pu vagabonder dans quelque univers parallèle. Ce qui pourrait expliquer que nous lui avons toujours trouvé l'air bizarre. Il est vrai que de notre côté, nous n'avons jamais cessé de lui paraître étrange. Elle fut une chic fille, une bonne camarade, une élève attentive, ce qui ne l'empêcha pas d'être prise en grippe par la maîtresse du cours moyen, une méchante bonne sœur, qui lui en voulut d'être plus belle, plus gentille, ou plus méchante qu'elle, qui sait. Elle rêva modérément, à la différence de certaines de ses copines, mais dépourvue de méfiance, elle demeura longtemps assez naïve, accordant sa confiance sans examen préalable, ce qui ne manqua pas de lui jouer quelques mauvais tours. On lui avait affirmé qu'elle était née dans un chou et longtemps, elle refusa d'absorber la moindre crucifère. Lorsqu'elle nous vit pour la première fois, elle reconnut tout de suite en nous le Père Noël. Ce fut notre première erreur, nous n'eûmes pas le courage de la détromper. Nous lui fîmes de nombreux enfants, sans grand enthousiasme, qui se révélèrent de bons petits gars et de belles petites garces. Garce était à l'origine le féminin de gars, à l'exception de quelques attardés et d'un surdoué particulièrement pénible. Un voisin sexagénaire qui venait régulièrement poser son estomac proéminent sur la barrière séparant nos jardins ne cessait de répéter sur le ton rigolard que cette ribambelle serait un soutien pour nos vieux jours. Nous n'avons jamais eu l'intention de devenir vieux, encore moins de vivre de vieux jours. Certes, les jours ne sont pas toujours de prime jeunesse, sans compter que les aubes sont parfois navrantes, comme dit le poète. Naturellement, nous l'avons beaucoup trompé, moins souvent cependant que nous lui eussions souhaité, car non seulement nous ne trouvions pas toujours de partenaires à notre goût, mais encore de nombreuses partenaires possibles ne nous trouvaient pas au leur. L'adultère est une activité des plus délicates, compliquée de problèmes d'agenda et de timing, augmentée de l'obligation de changer régulièrement d'hôtel et assortie d'un fort sentiment de culpabilité. Jusqu'à ce que nous apprenions qu'elle nous trompait de son côté, ce fut un soulagement. Elle nous fit part de son intention de nous quitter un matin calme, d'une température agréable due au retour de l'anticyclone des Açores, alors que nous étions en train de feuilleter le journal. En réalité, nous ne lisions plus de journaux depuis longtemps. Il n'y a jamais rien de nouveau dans le journal que l'annonce de catastrophes attendues et la fastidieuse répétition d'états de faits anciens. À un journaliste qui lui demandait si toutes les difficultés entre ministres étaient enfin aplanies, M. Clémenceau répondait « Oui, tous les ministres sont d'accord sur un point, ils veulent tous garder leur portefeuille. » C'est dans les cahiers de Maurice Barrès à la date du 31 mai 1906. Quoi de neuf à ce jour? Mais il est vrai que le journal permet de se donner une contenance, surtout au petit déjeuner, pour éviter d'avoir à répondre à d'éventuelles questions tout en pensant à autre chose ou même sans penser à rien. « Je pars », déclara-t-elle. « Pourquoi spécialement aujourd'hui ?» répondîmes-nous.
Ouais.
« L'ennui. Ce n'est pas que tu sois plus ennuyé qu'un autre, » continua-t-elle. « Seulement tu n'as pas le talent de me distraire de mon propre ennui. » Nous ne protestâmes pas, car nous comprenions d'autant mieux son propos que nous pensions de notre côté symétriquement la même chose. Restaient certains détails à régler, assommants. L'existence est un agrégat de détails assommants. L'avocat, la pension alimentaire, la garde alternée des enfants, tous. Nous nous remariâmes plusieurs fois de notre côté. Nous connûmes quelques matins radieux, puis assez vite, nous reprîmes le journal au petit déjeuner. Elle se remaria, vécut quelques aubes radieuses, et se remit probablement à s'ennuyer. Nous ne nous revîmes pas pendant plusieurs années. Et puis, un jour, par un bel après-midi de fin d'été, empreint de douceur et de nostalgie, nous déambulions sur les Champs-Élysées, d'excellente humeur, on ne sait plus pour quelle raison, lorsque nous l'aperçûmes. Nous faillîmes ne point la reconnaître. Elle était vêtue d'un petit tailleur tout ce qu'il y a de plus chic, qui mettait en valeur le galbe de ses jambes, la finesse de sa taille et sa poitrine, nous avions oublié sa poitrine. Avec sa souriante, l'air comblé, elle nous présenta au type qui s'accrochait à son bras, qui nous salua courtoisement, bien que distraitement, nous semble-t-il. Industriel richissime, sans doute, son dernier mari. Nous nous séparâmes après quelques propos de circonstances. Nous reprîmes notre promenade, un peu rêveur. « Avons-nous vraiment connu cette femme ?» nous demandâmes-nous. Nous ajoutâmes « Nous aurions pu l'épouser ». Mais reprenant nos esprits, tout de même, nous avions atteint un âge raisonnable. Songeant que nous étions attendus à la maison, nous nous précipitâmes vers le kiosque le plus proche pour acheter le journal.
Mais quelle tristesse dans tout ça.
C'est épatant, ce pessimisme.
Ah oui.
Épatant.
Vous partagez tout ce qu'il a dit.
5 sur 5.
Et vous, Odile, en tant que femme?
Non, ça ne s'adresse pas à moi, ça s'adresse à cette partie de l'humanité qui épouse des femmes, donc je ne me sens pas beaucoup concernée.
En tout cas, je trouve délicieux l'usage du passé simple.
Oui.
On ne parle pas suffisamment souvent au passé simple.
Avec un nous de majesté qui est majestueux, justement.
Absolument, oui. Oui.
En amour, on ne devrait parler qu'au passé simple.
In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor
sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish! Throw it down by my side." And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponties busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants and the sluts that they tow underneath the street lamps, in the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins, when he just can't go on. Close his nose to the sky, aims it up above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam.
C'est bon à entendre, David Bowie, Amsterdam. Les Papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture. Au micro, Françoise Trossard, la bande des Papous du jour. À suivre jusqu'à 13h59, les drôles des pistoliers. Et parlons-nous de la même œuvre en créant le malentendu tout en restant parfaitement honnête. C'est la règle. Un jeu de fausses pistes avec Gérard Mordia, Patrice Delbourg, Jean-Bernard Pouy et Jacques Vallée. Voilà, c'est un petit peu plus tard. Eux, ils ne tombent pas dans la facilité d'un appel téléphonique, d'un SMS ou de l'envoi d'un petit bout de mail. Non. Ils écrivent des vraies lettres manuscrites qu'ils postent ensuite avec un joli timbre. Ils sont trois pour un court roman épistolaire, catégorie affreux et méchant. La première, Dominique Muller, a imaginé une situation qui oblige son personnage à communiquer avec le deuxième, Patrice Minet, mais à propos du troisième, Hervé Le Tellier. Dominique Muller, vous êtes qui? Vous écrivez à qui d'abord?
Moi, je suis Valérie Fournier. Voilà.
Oui, enchantée.
Et j'écris au docteur Paul Legrand.
Oui.
Monsieur le docteur, je suis votre voisine du rez-de-chaussée gauche et seule la timidité me retient de traverser le palier pour aller vous trouver à votre cabinet du rez-de-chaussée droite. De plus, je suis superstitieuse et quand on entre chez un médecin, on ne sait jamais dans quel état on en sort. Avouez que cette proximité est une drôle de coïncidence. En tout cas, elle m'incite à vous parler entre amis, toujours prêts à se rendre de petits services. Celui que je vous demande vous sera aussi profitable qu'à moi. Il s'agit de mon déménagement. Vos mots de protestation m'ont fait soupçonner que les farces de mes deux enfants vous exaspèrent. Divorce, famille monoparentale, c'est moi le parent. Ils sont un peu perturbés, ce qui n'excuse pas leur coup de sonnette incessant chez vous, ni le fil de pêche tendu dans l'entrée pour faire chuter vos patients, ni les crottes de Juvénal, notre labrador, déposées devant votre porte, ni d'ailleurs la férocité de ce chien envers vos visiteurs qu'il prend pour des intrus.
Ils sont taquins, hein, vos enfants.
Mais c'est, vous savez, une famille monoparentale, ben c'est oui, pas oui, toujours
on
facile.
On est dans les vraies ben, vies, là, ben, oui.
Lui aussi est perturbé par le divorce. Heureusement, je ne le suis pas et je regarde l'avenir avec bon sens et raison, comme vous allez le constater. C'est pour l'équilibre de mes enfants que j'ai décidé de quitter ce charmant petit rez-de-chaussée. Malgré ma surveillance assidue, ils s'amusent à asperger les passants de soda tiède. On secoue la bouteille bouchée avec le pouce et hop, psss, on envoie. Mais vous en avez fait l'expérience, je crois. En revanche, le grand appartement du quatrième, pourvu d'une terrasse ensoleillée, sera le havre où nous pourrons nous reconstruire et retrouver le calme, tout comme vous. La résilience n'est-elle pas semblable, grosso modo, à une guérison ? Je mets la nôtre entre vos mains expertes. Il s'agit de convaincre monsieur et madame Maulne d'échanger leur étage immense contre mon rez-de-chaussée, sans frais pour eux ni pour moi. Il est plus adapté à de vieilles personnes, car ils sont âgés et ça ne va pas s'arranger, bien qu'ils aient prétendu se porter comme deux charmes quand je suis montée leur proposer mon aide en cas de col du fémur, pensant être bien accueillie. Je ne pouvais pas deviner que M. Maulne avait glissé sur les déjections de Juvénal, mais ces gens l'ont mal pris. Ils m'ont jeté dehors, sans me laisser le temps de leur présenter cette aubaine sur un plateau. Je ne veux pas vous mêler à ce malentendu de voisinage. J'ai besoin de votre intervention à titre strictement médical. Il vous sera facile de les convaincre des maux qui les guettent, à vous de choisir dans la panoplie des maladies de l'âge et de la nécessité de s'installer au rez-de-chaussée. Par chance, ils n'ont pas d'enfants, personne pour s'occuper de deux bientôt grabataires, immobilisés là-haut, incapables de descendre et de remonter donc pour se ravitailler. Certes, il y a un ascenseur, mais il pourrait tomber en panne. Quant à leur terrasse, ils risquent de chuter par la rambarde, sans parler des méfaits du soleil. Et puis, au rez-de-chaussée, une fois cloués dans leur fauteuil, une fatalité dont vous n'aurez aucun mal à les persuader, ils pourront regarder par la fenêtre, comme des vieillards dignes de ce nom. C'est vivant, là.
Elle est monstrueuse, hein, cette femme du rez-de-chaussée.
Ben, c'est la
même.
Vie telle qu'elle va.
Surtout que moi, je regarde Minet, qui est le docteur Legrand, et ce pauvre Hervé Le Tellier, qui est sûrement monsieur Maulne.
Et oui.
C'est peut-être ça, hein, tout près d'un col du fémur cassé. Et...
C'est vivant la rue, animée, surtout oui. La nôtre. Et ils ne seront pas coupés du monde comme sur leur Olympe, privés du spectacle et de la rumeur des voitures. Comprenez-moi, je ne vous demande pas de leur faire peur, de les inquiéter, mais bien au contraire de déployer l'existence joyeuse qu'ils couleront dans mon adorable rez-de-chaussée. Ce sera tellement plus commode pour eux. À propos de commode, je me chargerai bien sûr du transport de leur mobilier, du moins le peu que contiendra le rez-de-chaussée. Si ça peut leur rendre service, je garderai le reste au quatrième, même la bibliothèque. Du rayonnage que j'ai vu, elle est bourrée de Barthes, Deleuze et autres Derrida, pour vous dire s'ils sont vieux. Ce déménagement est gagnant-gagnant pour vous et les Maulnes. Quant à moi, j'y gagnerai avant tout la satisfaction d'avoir organisé leur avenir heureux. À très bientôt, monsieur le docteur et cher ami, avec les remerciements anticipés de toute la famille, Valérie Fournier.
Bon, c'est une bonne lettre. Hein. C'est, elle est
simple,
un peu... Voilà, échangerait 45 mètres carrés au rez-de-chaussée contre 150 avec terrasse au quatrième.
Vous verrez ça quand vous serez vieille.
C'est un peu comme ça que je comprends la lettre de Valérie.
Ça vous intéresse aussi, François.
Eh ben, oui, surtout la terrasse. Alors vous, le bon docteur Legrand, je ne sais pas pourquoi je dis bon, mais parce que ça vous va bien.
Mais bien sûr.
Le bon, à vous, Patrice Mimi.
Excellent médecin, oui.
Alors, c'est un généraliste, il est quoi comme
voilà.
spécialité?
Alors, d'abord, n'oublions pas que un médecin, c'est une entreprise commerciale.
C'est vrai, bah oui.
C'est donc qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent et qui achètent quelque chose. Mmh. Mais il faut donc de la tranquillité. Mmh. Hein. Un chien dans les pattes, des mômes qui balancent des saloperies.
Ouais, c'est pas bon.
C'est pas bon pour le commerce.
Non. Je suis bien de cet avis.
Il est donc forcé de prendre le parti de sa voisine.
Oui.
Et alors, ce bon docteur, il a une spécialité.
Oui, c'est quoi?
Voilà. Ben, sa spécialité, c'est... Il est psychiatre.
D'accord. Oui, donc il comprend bien le profil psychologique de la voisine.
Il comprend surtout bien ses intérêts.
Oui, c'est sûr.
Parce qu'il est très malin, évidemment, un psychiatre. Voilà, donc il va faire en sorte que la transaction se fasse.
Oui.
Mais par contre, l'argumentaire qui est présenté dans la lettre de sa voisine lui paraît insuffisant.
Ah.
Donc il va en mettre une couche.
D'accord, et après il monte la lettre par l'escalier ou il la met à la poste?
Oui. Vous allez voir. Tout le monde se connaît, hein. C'est un petit immeuble,
c'est
tout le monde
petit
se connaît.
Immeuble, c'est ça, oui, je comptais sur ça aussi, moi.
Oui, oui. Le quatrième étage est le dernier.
Et oui, puisqu'il y a la terrasse.
Voilà.
Ah oui, donc vous écrivez au Moulne.
À monsieur et madame Moulne.
Ben oui.
Chère madame, cher monsieur, j'espère que vos problèmes de santé ne sont plus qu'un lointain souvenir. À notre dernière rencontre, la minerve que vous portiez, monsieur Moulne, et les béquilles que vous portez, madame Moulne, ne laissaient pas d'être un peu inquiétants. Vous savez qu'en cas de difficulté, voire d'aggravation, vous pouvez compter sur mon aide, même si je suis spécialisé en psychiatrie, psychothérapie. Figurez-vous, parce qu'il arrive comme ça.
Il arrive
figurez-vous que mes bonnes relations avec le gérant de l'immeuble, dont nous sommes locataires, m'ont permis d'apprendre une nouvelle alarmante. Une partie de l'immeuble va probablement être mise en vente dans un avenir proche. Vous savez comment fonctionne l'immobilier ? Ce monstre assoiffé de bénéfices. On vend à la hausse, on achète à la baisse. Là, ce sont les Américains, avec leur gestion des fonds de pension, qui vont acquérir le dernier étage.
Ah, vous leur faites peur, carrément. Oui.
Et les psychiatres.
Ouais. Ah oui. Oui, mais eux, ils sont âgés, ça ne veut pas dire qu'ils soient bêtes.
Voilà.
Merci.
Tout reste tenu secret, mais je voulais vous avertir pour diminuer le choc de cette rupture avec votre agréable cadre de vie. Mais tout n'est pas perdu pour vous. La chance veut que ma voisine, madame Fournier, s'apprête à quitter son logis en emmenant ses deux enfants et le chien. Si nous négocions discrètement notre affaire, vous et moi, nous pouvons vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard, dans son merveilleux rez-de-chaussée. Mais il faut faire vite. Ce lieu idéal pour des personnes du troisième âge est très convoité. Nous sommes tenus à la plus grande discrétion si nous voulons parvenir à nos fins. Alors, motus et bouche cousue. Postez-moi votre réponse et je me charge de l'ensemble de la transaction. Et avouez qu'un médecin sur le même palier que vous, ce sera la cerise sur le gâteau. Cordialement, docteur Legrand.
Il a la manière de présenter les choses, hein, et puis il va à la poste.
Mais oui, mais moi je suis un peu inquiète parce que Valérie Fournier, elle devient quoi là-dedans?
Et oui, il n'est pas trop question que vous preniez l'appartement du quatrième. Hein.
Et oui.
Et alors vous, Hervé Le Tellier, vous êtes monsieur Moulne.
Oui.
Vous le connaissez bien, le docteur, là.
Bien sûr.
Hein? Sympathique.
Bien sûr.
Vous avez de bons rapports.
Oui, j'ai de bons rapports avec lui, mais ce n'est pas à lui que j'écris.
Ah bon?
Non.
Vous
écrivez à qui? J'écris à l'ex de madame.
Ah oui, à l'ex de Valérie, ah
oui.
Alain.
Alain.
Le père des sales gosses,
oui.
Quoi.
Oui, cher Alain Fournier, notre affaire avance, car vous aviez raison. Votre ex-femme intrigue effectivement pour que nous déménagions au rez-de-chaussée avec la complicité de ce pourri de docteur Legrand.
C'est moi.
Ah, je me souviens de notre sympathique rencontre au bas de l'immeuble. Alors que vous veniez de ramener vos deux charmants enfants à leur mère. Il y avait votre nom sur la boîte aux lettres, Alain Fournier, celui du docteur Legrand, juste en dessous, et enfin le mien, Moulne, et j'ai fait, oh, Alain Fournier, Legrand, Moulne, ça alors, c'est pas banal. Et vous avez dit, je vois pas pourquoi, ah, vous aviez l'air fatigué, hein, je vous en ai fait la remarque, et vous m'avez dit, la femme du rez-de-chaussée, c'est mon ex. Et moi j'ai dit, ne m'en parlez pas. La femme du quatrième, c'est la mienne. Ah, souvenir. Bon, venons-en aux choses sérieuses. Comme nous en avons convenu, je me débrouille pour qu'on déménage le plus tôt possible. J'ai limé les ferrailles du balcon. Dès que votre femme s'appuiera, il cédera. À mon avis, 16 mètres, c'est bien suffisant. Vérifiez bien les clauses de l'assurance-vie, simplement. Dès que ce sera fait, c'est à vous de remplir votre part du contrat. Ma femme joue tous les vendredis au bridge et prend le bus 43. Vous faites au mieux, j'ai toute confiance. Bien à vous, Gérard Moulne. PS. Pour Juvénal, ce sympathique labrador. Je pense que ce serait bien s'il ne supportait pas la mort de sa maîtresse. Qu'en dites-vous?
Ah, c'est déjà parfait dans l'immeuble.
Le crime parfait, on échange.
Double, eh ben oui.
Le crime de la Terrasse Express.
Eh oui. Bon, le docteur, il est content ?
Ah, mais il est ravi. Il n'a pas connaissance de cette lettre.
Mais viens de la découvrir avec nous, quand même. Vous pourriez intervenir et appeler la police, non ? Même pas ?
Ah non, moi, je suis psychiatre.
Oui, c'est pas son genre.
Les dents longues, redoutables, le requin tue sans merci, le surin au fond de la poche, sans reproche, c'est maquis. Sur les bords de la Tamise, le sang coule dans la nuit. On périt les poches vides, poches pleines. Quelqu'un fuit, gens de bien, hommes riches, disparaissent au grand jour. Sur leurs traces, quelqu'un passe qui ramasse le butin. Jenny Trawler agonise, un couteau entre les seins. Sur la rive, dans l'eau grise, Monsieur Mackie s'en lave les mains. Et la veuve d'âge tendre que l'on viole dans son lit, que l'on vole sans attendre, le gentleman s'est maquis. Le sang coule des mâchoires au repas du grand requin. Ma gantée et nappe blanche, Monsieur Mackie croque son prochain. Les dents longues, redoutables, le requin tue sans merci. Le surin au fond de la poche, sans reproche, c'est maquis.
Bernard Lavillier, la complainte de Mackie. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Parlons-nous de la même œuvre où culture est malentendue. Gérard Mordia a eu envie de raconter une certaine œuvre à Patrice Delbourg. Et pour cela, il a choisi l'écrit et de raconter sans nommer. Est-ce un roman, un film, un poème, un tableau ? Lui seul le sait. Mais comme c'est un homme honnête, Gérard, il pourra tout justifier en fin de jeu. Il ne dira pas n'importe quoi. Patrice Delbourg s'étant fait une idée de l'œuvre en jeu, la racontera à son tour, à sa façon. Il est plus fantasque, Patrice. Puis viendra le tour de Jean-Bernard Pouy. Et enfin, avec Jacques Vallée, nous remonterons la chaîne des malentendus ou pas. Gérard Mordia, vous aimez bien raconter des histoires. Et aujourd'hui, vous racontez Masqué.
Oui. Et celle-là est masquée, mais délicatement, je dirais. C'est une sorte d'écume.
Ah bon ?
Ce n'est pas un masque de fer.
Et donc, vous nous racontez une certaine œuvre ?
Oui, je vous raconte ça. Et en fait, j'en parle d'un point de vue du héros. Oui. Je parle d'un héros, d'un homme de fer. Mais avant de brosser son portrait, je veux évoquer Julien Pélage-Auguste Briseux, un poète romantique breton du 19e siècle.
Oui, qui a écrit Marie.
La rue Briseux, il y en a partout en Bretagne.
Hélas, ah oui, aujourd'hui, ah oui, bien oublié, alors que l'on devrait le célébrer entre Saint-Malo et Guernesey. Pourquoi Briseux ? Parce que oui. Briseux s'exclamait « Au travail, au travail ». Et s'il est une expression qui court sur toutes les bouches contemporaines, c'est bien celle-là. « Au travail, au travail ». Que ce soit les millions de chômeurs qui en réclament, ou les politiques et les représentants du patronat ordonnant à tous les laissés pour compte d'obéir à cette injonction.
Au passage.
Travail est devenu un mot sacré, un mot magique, oubliant qu'il tire son nom du tripalium, ce bois de malheur où l'on attachait les esclaves pour les punir. Mais ne nous y trompons pas. L'homme au travail est à la torture, il est à la mine, au chagrin. Il est face à lui-même, sans appui, sans syndicat, sans personne pour lui prêter la main. Seul, forcément seul, comme aurait dit Marguerite Duras, sise aux roches noires à Trouville, face au large. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais si on peut douter que Dieu s'intéresse aux hommes asservis à leurs tâches. L'homme qui, 100 fois sur son métier, remet sur son ouvrage, oublie les vagues successives des jours et des nuits, comme si soudain, sa vie n'avait d'autre but que de la préserver, malgré la faim, le froid, le sentiment d'abandon qui l'assaille. Sa vie n'est qu'effort, acharnement, persévérance. Mais, comme venu des profondeurs, surgit brutalement la grande question. Le progrès détruit-il les emplois en privant les travailleurs de ressources ou au contraire permet-il d'en créer de nouveaux ? Cette question porte en elle un monstre, inutile de le citer, il est dans toutes les têtes. Un monstre qui toujours menace le travailleur et le condamne à lutter chaque jour pour gagner son pain, pour sauver sa peau, pour ne pas se faire renvoyer d'où il vient, du néant. L'homme n'a pas d'alternative. Contre vents et marées, il doit aller au travail, au travail, au travail, au travail, comme disait Briseux. C'est une lutte à la vie et à la mort. C'est dire l'horizon qui s'ouvre au lecteur intrépide de cette histoire, découvrant qu'une servitude volontaire peut être héroïque.
Et formidable le texte de Gérard.
Le dernier roman de Pierre Gattaz. Oui.
Ah non, mais je trouve que quand il parle du monde du travail, ah, voilà, des travailleurs, bon, on y croit. Alors, oui, entre vous et ce texte, Jacques Vallée, il y a Patrice Delbourg et Jean-Bernard Pouillon. On les connaît bien, ces deux-là. On sait qu'ils ne comprennent pas toujours tout ce qu'on leur soumet. Allez, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de cette ambiance?
Oui,
à
le, exactement le fond même du discours.
C'est vrai.
Oui, c'est à propos du travail.
Ah oui, donc le travail est passé.
Le travail, mais d'une façon un peu plus poétique, plus comme il a dit, plus enrobé de brume.
Oui, c'était très joli comme expression d'ailleurs. Mais quand vous disiez au travail, on pensait au charbon, au charbon.
Oui. Hein, on peut y penser.
Non, vous y avez pensé, aussi. Patrice Delbourg?
Oui, oui, oui. Moi, j'ai pensé plutôt au Varec.
Ah oui.
Oui, oui. Au Goémon, puisque bon, il y a.
Briseux, voilà, à cause de Briseux, parce
et puis,
que...
Non, et puis, c'est dit, poète, armorique, monstre. Oui. J'ai été sensible à ça. J'ai été vers ça. J'ai pensé tout de suite à une œuvre que j'aime beaucoup. Et j'ai laissé de côté les choses qui me plaisent moins, c'est-à-dire le patronat, le côté trac, les revendications syndicales, ça m'agace. Et Marguerite Duras, plus que tout.
Ah bon, d'accord. Donc...
mais par contre, le poète est resté à la fin. Ah oui.
Ah oui, non, mais Patrice Delbourg n'est pas un tueur de poésie.
Ah
hein,
non,
oui,
non. Mais non, mais c'était, il y avait les brumes, le poète de vent et marée, et puis il y avait la douleur, il y avait la difficulté du travail du poète, seul, sous sa lampe pigeon le soir, comme ça, avec les odeurs de la mer qui s'en va, comme ça. Donc je suis parti sur cette idée-là.
Oui, et vous faites parler le personnage aussi, ou vous parlez de lui, non ?
C'est une séquence du personnage, du poète douloureux, qui va tenter de soigner son échine.
Bon.
Il se rendit chez le rebouteux.
Ah bon, effectivement. C'est au sens propre, oui.
Oui, bien entendu. Il se rendit chez le rebouteux de Saint-Quay-Portrieux.
Ah oui, c'est pas trop loin de chez
c'est
lui, oui.
Un alexandrin. Ses jointures le faisaient horriblement souffrir. Sur le chemin, les enfants lui jetaient des pierres. Les vieillards se gaussaient de son handicap. C'est dur d'être poète d'absolu, de vivre en Bretagne sidérée et de souffrir de polyarthrose articulaire.
Ah oui, ça fait mal, ça.
Le cabinet du rhumatologue était bondé. Le charron, le dinandier, les suyeurs de tempête, le capornier retraité, ils étaient venus. Ils étaient tous là. Certains riaient jaune, d'autres n'en menaient pas large, ce qui, quand on vit sur le littoral, devient très douloureux. Des pieds étaient couverts d'œdèmes, comme les tubercules de ces betteraves sucrières que l'on donne aux cochons en basse armorique. Des genoux enflés comme des aérostats prussiens faisaient péter les coutures des bénards. C'était la cour des miracles d'un petit peuple de podagres qui payait cash ses excès de gourmandise en tuméfaction en tout genre. Le poète combattait pourtant l'enflure dans le corps de son texte, mais il n'y avait pas à tortiller l'inflammation des ligaments, le furoncle, la flatulence, la bouffissure, toute sa couenne criait l'emphase des tissus, toute sa charpente contredisait son style. Ce n'est pas juste, docteur, j'écris sur l'os au ras du réel et mon corps se débonde en scrofule et en kyste. Vous consommez trop de sucre, mon ami, vous êtes un panari ambulant. La pustule menace votre cervelet, le phlegmon squatte vos méninges. Mais je suis à la diète depuis la Toussaint, docteur. Le squelette est au bout du chemin. Restreignez la mélasse, la saccharine et le candy. Vous ressemblez à un gros berlingot tuméfié. Comme mes aînés alors, docteur. Comme Vigny, comme Lamartine, comme Hérédia, comme Banville. Tout ce que je conchis. La vie est cruelle, cher ami. Parfois, votre corps emprunte les défroques de votre pire ennemi pour vous faire jouer une pièce aux antipodes de votre sensibilité. Vous vous croyez Médor et vous voilà greffier. C'est moche, docteur.
Oui, ça, c'est très moche. Pauvre mec.
C'est moche, docteur. Oui, ça fera 55 francs en liquide, je vous prie.
Gérard Mordillat, je vous ai vu un peu hilar, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression qu'il parle de la même chose que vous, enfin de la même chose, de la même œuvre que vous ?
Je pense que oui, pas du même point de vue. Je pense qu'il a pris des chemins détournés, peut-être des chemins de halage, mais qu'il parle vraisemblablement de la même œuvre. Sauf à la fin où il y a peut-être une chose assez bizarre d'un seul coup dans la citation de Vigny, Hérédia, etc. Ça me paraît ça une étrangeté, mais sans ça, j'étais presque certain qu'il parlait de la même œuvre.
Bon, en tout cas, derrière vous, c'était Jean-Bernard Puy.
Oui.
Qui passait, qui avait l'honneur, le plaisir
par là.
De vous lire. Il passait par là, oui. C'était facile de se faire une idée de l'œuvre en question.
Ah, moi, oui, absolument. Et puis, je n'ai pas essayé de tromper celui qui allait venir après moi. Donc, j'ai fait un texte vraiment très limpide, voire éclairant.
Bon, bah alors, écoutez... On...
Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le poète malade, bien évidemment. Marseille, le vieux port, qui était encore digne en ces temps lointains. Pas de sardines géantes à l'horizon. Pas de pont transbordeur, ni de ferry-boîte. Qu'une petite brume persistante venue des îles, et même, peut-être, du château d'If. Le steamer rouillé vient d'accoster le long du quai. Il vient de loin, sa coque en est témoin. Il vient des pays de l'humide et des fleuves impassibles. Des passagers, encore vêtus de leurs oripeaux coloniaux, descendent, un peu frileux, la passerelle, s'arrêtant tous les deux pas pour humer cet air de Provence qu'ils avaient oublié. Sur le quai, serrées l'une contre l'autre, deux femmes attendent, regardant vers le ciel tant la masse d'acide du paquebot est haute. Aucune joie ne se reflète sur leur visage un peu nordique. Elles attendent. Elles savent qu'il est là. Elles savent qu'il est vivant. Mais quelle est la sorte de vie qu'il habite encore ? Il n'a pas deux trous rouges au côté droit, elles en sont sûres. Mais jusqu'à quel point son corps a-t-il résisté au climat malsain des pays qu'il vient de fuir ? Peut-il marcher ? Peut-il agiter les bras en signe de salut et de liesse ? Elles sont, ces deux femmes, très inquiètes. On n'est pas sérieux quand on a plus de 30 ans. Quand on n'a pas bu que de la limonade et que les fées vertes, on en trouve même sous les tropiques, même si là-bas on ne les boit pas, on les fume. Elles sont inquiètes car elles ont eu des nouvelles. Là-bas, il y a beaucoup de gnous. Mais c'est la lettre E qui les terrifie. Celle qui transforme le gnou en genou. Et puis elle voit deux marins descendre la passerelle avec lenteur, portant une civière. Elles savent alors que sur ce lit de douleur repose leur poète. Et ce n'est pas Edmond Dantès, ça elles en sont persuadées.
C'est écrit, vous avez fait le geste de l'homme qui joue du violon, Gérard Mordillat.
c'est d'une telle clarté.
Oui.
Oui.
Non, pour quelqu'un qui a des lettres.
Oui, voilà.
Oui, bien sûr.
Voilà, voilà.
Oui, lui, je pense que là, Jean-Bernard parle très clairement du texte Patrice, oui.
Ah, mais pas du vôtre.
Pas du mien, non.
C'est quand même considérablement éloigné.
Pas considérablement, non, pas si considérablement que ça. Non, non, il y a quand même un lien, ne serait-ce que par la poésie, mais c'est pas si éloigné que ça.
C'était si joliment écrit, Jean-Bernard Pouy, votre texte. Alors, je le passe à Jacques Vallée. Et Jacques Vallée, eh ben, on va lui poser la question importante de ce jeu. De quoi parle-t-il, Jean-Bernard Pouy?
C'est tellement évident, mais c'est tellement bien dit aussi. Mais il y a une présence qui, dès le premier mot Marseille, nous tombe dessus. Et puis, on voit un steamer rouillé, on voit des passagers vêtus d'oripeaux coloniaux qui descendent. Un peu frileux, un peu malade, là. Il est après indiqué des choses tellement précises. Quelqu'un qui vient des pays humides et des fleuves impassibles.
Oui, ça, c'est. Fleuves et impassibles, oui.
Et puis, qui n'a pas de trous rouges au côté droit. Oui. Enfin, bon, voilà, vous avez relevé tout ça.
Pistes,
donc,
oui.
Il s'agit d'Arthur Rimbaud. Mais alors, où c'est l'œuvre.
Mais dans quoi? Dans quelle œuvre?
Oui, alors, où c'est l'œuvre d'Arthur Rimbaud? Parce que pourquoi pas, c'est une pléiade d'Arthur Rimbaud, il y a tous ces détails dedans.
Oui.
Ou alors, je pense que ça peut être le livre d'Henri Miner, Le temps des assassins, où il raconte Rimbaud après la poésie, lorsqu'il a oublié la poésie et qu'il est aux colonies, qu'il ne revient des colonies malades. Le thème de ce livre de Miner, c'est que c'est peut-être plus important cet homme qui est parti que le poète. Rien qu'à travers ces lettres complètement sèches et tout ça, où la poésie a été gommée, mais où il y a toujours une inquiétude, où il y a toujours une présence humaine. Et puis cet homme qui revient à Jean Bon Lambeau et qui écrivait quand il était gosse, « Moi je suis intact et ça m'est égal », ben il ne pouvait plus le dire. Là.
Et puis, il nous ferait un cours pendant des heures, mais c'est passionnant, Jacques.
Et puis surtout, l'histoire où j'ai rattaché ça au travail, c'est que, dans ses poésies, il tape sur le fait de travailler. Il dit « Quel siècle la main à plume vaut bien la main à charrue. Moi, je n'aurai jamais ma main. » Voilà, c'est quelqu'un qui a vilipendé le travail exactement dans les termes de
Gérard Mandillard. Bon, écoutez, c'est très, très argumenté. Il y a sûrement plein de choses vraies là-dedans. Jean-Bernard
Pouy. Oui, j'ai fait esprit quand même que...
D'être un peu transparent.
Que... Non, mais... que Jacques Vallée trouve une fois un peu par pure gentillesse. Non, je pensais que c'était la correspondance de Rimbaud. Parce qu'il y a quand même deux personnages, c'est la mère et la sœur, qui sont extrêmement importantes, à qui Rimbaud raconte des tas de choses, vraies ou fausses d'ailleurs, pour en même temps les calmer et en même temps leur faire peur. Enfin, c'est une correspondance qui est très très étonnante. Et en fin de vie, parce qu'il ne sait pas encore qu'il va mourir du genou, bon. Et ces deux femmes qui ont été effrayées depuis le début, toujours par surtout les moments par lesquels il est passé, eh ben ces deux femmes ne l'oublient pas et elles sont là. Elles comprennent pas vraiment qui est leur Arthur, mais elles sont là. Elles sont là, elles ne l'abandonnent pas.
Bon, c'est formidable. Donc, tous les deux, vous avez pensé à Rimbaud. D'accord. Patrice Delbourg, est-ce que dans ce cabinet médical où vous nous avez trimballé, il était question de la correspondance d'Arthur Rimbaud?
Non, mais le poète auquel j'ai pensé était le poète préféré d'Arthur Rimbaud, justement. Alors, Marseille, c'est la mort de Rimbaud, mais c'est la naissance d'Artaud. Artaud pouvait être dans le... Mais ça n'est pas lui, c'est quelqu'un d'antérieur, de breton, puisque nous étions avec un poète breton, de travailleur, de douloureux, quelqu'un de goûteux, de scrofuleux, quoi, de difforme. Et c'est intéressant, les gens qui ont un style impeccable et un corps difforme. Il y en a quelques-uns dans la littérature, il y a Léopardi, Scarron, Sénancour, Lichtenberg, absolument. C'est-à-dire des gens qui sont mal foutus, qui ont un squelette un petit peu sinueux, mais un style remarquable. Et Tristan Corbière, puisque c'est lui dont il s'agit, est un homme comme ça, c'est une espèce de pauvre air, un peu monstrueux, qui claudique, qui clopine, à Roscoff, là nous sommes vraiment en Bretagne, comme une ombre comme ça, avec sur sa chaloupe, avec son grand biteau, c'est tout. C'est Les Amours jaunes, qui est quand même un monument de la poésie française, et qui casse évidemment toute la poésie parnassienne romantique, et qui annonce, Apollinaire...
Mais il m'a trompé, parce qu'il a cité la basse armorique.
Oui.
Or, Roscoff, c'est le Léon, c'est pas du tout la basse armorique.
Non, mais que de rien, la géographie, alors.
Ah oui, mais là, c'est l'enfant de l'Armor qui me, fait des remarques. Et c'est un régional, Jean-Bernard.
Mais je ne sais pas s'il n'y a pas eu quand même un gros détournement à partir de Patrice Delbourg. On se tourne vers vous, Gérard Mordia. Oui. Vous avez voulu parler des Amours jaunes de Tristan Corbière.
Non, mais j'aurais pu. Mais c'est vrai que ce qui s'est perdu, c'est le travail.
Eh ben oui, ben
le
oui.
travail, le travail, oui, le travail.
C'est... Ah oui, mais ça, c'est une notion qui m'est étrangère.
Oui, mais Ovarec, je trouvais ça très, très bien. Parce que on était là, si je puis dire, en plein dedans. Parce que le personnage dont je parlais, c'était Gilliatt, le héros des travailleurs de la mer. Ah, ben qui aimait bien entendu.
Oui, mais c'est pas la basse armorique non plus.
Mais c'est entre Saint-Malo et Guernesey que ça se passe, excusez-moi. C'est
Victor Hugo, donc.
Mais Victor Hugo, bien sûr. Bien sûr, Victor Hugo.
Ah ben, il y a le couplet hugolien. Ça, oui. C'est vrai, redites-nous un petit peu des bouts de votre texte, là, « Au travail, au travail ».
Briseux qui s'exclamait « au travail » et s'il est une expression qui court sur toutes les bouches contemporaines, c'est bien celle-là. Au travail, que ce soit les millions de chômeurs qui en réclament ou les politiques et les représentants du patronat ordonnant à tous les laissés pour compte d'obéir à cette injonction.
Ben oui, Patrice Delbourg, il y a un pan entier du texte de Mordia, ouais,
mais
donc vous
n'avez pas tenu compte. J'ai été effrayé par le slogan. J'ai été effrayé par l'avancée de la cohorte et je me suis replié vers la solitude du poète, comme ça, seul dans sa tanière, bon, avec ses rhumatismes et son vers libre.
Oui, mais écoutez...
Son vers libre.
L'homme qui, 100 fois sur son métier, remet son ouvrage, oublie les vagues successives des jours et des nuits. Oui. Comme si soudain sa vie n'avait d'autre but que de la préserver, malgré la faim, le froid, le sentiment d'abandon qui l'assaille. Gilliatt est là tout entier. Et quel est ce monstre qui surgit des profondeurs? C'est cette pieuvre immense, ce calamar géant avec qui il va combattre. Et de façon contemporaine, c'est bien entendu le chômage qui fait que le travailleur est obligé quotidiennement de lutter pour gagner sa vie, tout simplement.
Bah oui, mais...
Et de sauver sa peau et de ne pas être envoyé à Pôle emploi, c'est-à-dire au néant.
Absolument.
Mais tous il défend très très bien son texte.
Mais tous les poètes sont des chômeurs enviagés.
De toute façon, nous n'avions que des poètes.
Que des poètes. Hein,
voilà. Oui. Hugo, Corbière, Rimbaud. C'est un beau lignage.
C'est un très beau trio. Oui. L'œuvre n'a pas du tout été identifiée, mais la poésie est passée.
C'est l'essentiel.
La poésie était recentrée. Et la poésie vint à la politique à la fin. C'est important.
Ah ben, elle gagne, oui.
Elle gagne.
Mais,
par chaos même.
Oui. Comme disait Hölderlin, il faut vivre poétiquement sur la terre. Et on peut même dire qu'il faut vivre politiquement sur la terre.
On se quitte. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard, à podcaster sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter 1000 jours. À la page des papous, vous pouvez noter vos remarques, questions, rubrique commentaires et puis baladez-vous dans nos pages Vie du Club et Livre des Papous pour tout découvrir ou presque sur les livres, les spectacles, les expos des joueurs de la bande et puis voir les infos sur notre prochaine émission en public des Papous samedi 6 février à Brest pour Longueur d'onde. On se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres jeux des Papous. Au revoir, passez un très bel après-midi bien au chaud et à l'écoute de France Culture.
Quoi?